Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oh my god!
Incroyable!
Yes, ça fonctionne. Bonsoir, Internet! Nodius, je t'ai même pas présenté.
Bonjour.
Bonjour Nodius, bienvenue sur ma chaîne.
Bah merci, merci beaucoup.
C'était un plaisir de te recevoir à nouveau.
Bah c'est vrai que c'est la deuxième, troisième, je sais pas.
C'est la deuxième fois, on avait fait le brocode ensemble, un grand moment de stream.
Ah oui, House of the Dragon, c'était en podcast, c'était pas en...
Oui, c'était en podcast au Bled, dans la chambre de mon tonton, puisqu'on a fait ensemble un épisode du podcast débrief de House of the Dragon avec Nodius, qui est créateur de contenu, mais aussi... mon amoureux dans la vie, on habite ensemble hein, vraiment, on est chez nous, on est tous les deux en pantalon de pyjama en dessous, mais faut pas le dire. Et on était au Maroc ensemble pendant le final de House of the Dragon, car je time très bien mes voyages en fonction de mon actualité personnelle et culturelle. Et du coup Nodius a très gentiment participé à un podcast sur le final où on répondait aux questions des internautes et tu donnais ton interprétation des réponses possibles.
Oui,
sachant
oui, puis,
que
le défi c'était
t'avais
aussi
pas de prénom.
Ouais, il fallait me souvenir du nom des acteurs entre Daemon, Taemon, Gaemon, Jaemon, Daemon,
Aegon.
Aegon.
C'est vraiment les personnages pas les acteurs, mais voilà. Et après il y avait les noms des dragons et tout. Bon, c'était un très bon podcast. En vrai, non, c'était très enrichissant. Merci beaucoup d'avoir participé.
La musique a un poil fort par rapport à vos.
Ok, je baisse. Merci beaucoup Ezoc. Et on avait fait un live, pour le coup, ensemble, sur cette chaîne, où on avait remis la main sur le bro code. Souvenez-vous, 2005, How I Met Your Mother défraye la chronique et prend possession du monde télévisuel. Et le personnage de Barney Stinson nous présente le bro code, le code de conduite
un
des
ouvrage,
bros entre bros.
Une œuvre avant tout.
Bah finalement, c'est ses tables de la loi à lui, quoi. C'est son ancien testament. Ouvrage que j'avais reçu à mon anniversaire en langue française, car à 18 ans, je regardais How I Met Your Mother comme tout le monde, et qu'on a retrouvé, exhumé chez mes parents et redécouvert en live. Le premier chapitre s'appelle « Les bros avant les poufs ». Voilà, c'est...
j'aime bien comment tu le dis sans préavis, quoi. Il n'y a pas de warning,
mais
c'est vraiment les bros avant les poufs.
Il n'y a pas de préavis dans le bouquin non plus, finalement. C'est tout, chapitre 1, bam, hop, enfin, règle numéro 1 du bro code. Et il y a vraiment des trucs genre le facteur pute des meufs et tout. Enfin, il y a zéro shame sur la misogynie. C'était un très bon live.
C'était un très... Alors, un moins bon livre, mais un très bon live.
Oui, une lettre qui fait toute la différence. Et ce live est maintenant dispo en podcast sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast. C'est moi, depuis le début. Et je l'ai réécouté hier et j'étais là. Alors déjà, on fait un super duo, bravo à nous. Et j'avais réoublié le brocode, donc je l'ai redécouvert. Et je vais mettre aussi ce replay live sur mon flux série, parce que finalement, on parle pas mal de How I Met Your Mother et de l'héritage que cette sitcom a laissé dans nos cœurs. Mais on va parler d'une sitcom un peu moins problématique, normalement, aujourd'hui.
En vrai, c'est pas tant problématique. C'est même pas vraiment problématique.
Non, ça va. Franchement, c'est mimsouille. Y a des trucs, mais c'est mimsouille.
Ça s'en sort bien, quoi.
Hello Loli, hello Eclipact, hello Marietou, hello Younananas, hello Traficote. Parks and Rec risque, en effet, d'être moins problématique que le brocode. Et hello Coquelicot, que j'ai l'air de snobber, mais pas du tout. Welcome. Nodius. Tu étais en live jusqu'à il n'y a pas plus tard qu'une heure. Il y a une jolie dédicace qui t'a été faite sur le chat. J'encourage bien sûr tout un chacun à aller follow ta chaîne, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver ?
du jeu vidéo.
J'aime bien poser cette question parce que moi je sais que c'est chaotique la
réponse. Vraiment, Jamy ne sait pas sortir. Qu'est-ce qu'on peut y trouver, Nodus?
Écoute, ça s'appelle animer, ça s'appelle faire des transitions, ça s'appelle présenter son invité. Sinon, je peux ne pas faire ta promo. Être là en mode, vous savez qui c'est, sinon, bah, vous devriez.
Du jeu vidéo principalement, de la musique aussi qui va revenir régulièrement là bientôt.
De la musique de type unt.
De type électronique principalement, mais ouais non, beaucoup de jeux vidéo, de la papote, généralement moi qui me brûle avec un café trop chaud. et qui après fait
cette anecdote est vraie.
C'est trop chaud.
Quel type de jeu vidéo peut-on trouver sur ta chaîne?
En vrai, j'arrive même plus à même moi à définir. Genre c'est hors de mon contrôle. C'est
souvent tu me dis les trois mots jeu de mort. Pour des les jeux auxquels tu joues.
On a fait les jeux From Software qui sont les Dark Souls, les Elden, enfin les Sekiro, etc. Là en ce moment, je suis sur un jeu de mort qui s'appelle Dwarf Fortress, qui est un.
Ouais. Là on est même moi. Franchement, je joue à des jeux en pixel pas très jolis où il faut planter des citrouilles. J'aime bien. Il y a pas de souci, je m'épanouis. Je joue à Vampire Survivors où il y a des pixels pas très jolis. Il faut tuer des méchants. Je vis bien, mais c'est du crack. Toi, tu joues à des jeux, mon gars. Je suis là. Ah ouais, pas cette patience, hein.
En vrai, ça va, tu vois, genre, je suis sûr que tu pourrais y jouer.
Je pourrais, mais est-ce que je m'amuserais, tu vois? Genre, on a joué ensemble à Terraria.
Peut-être ce serait plus drôle que tous les clones de Stardew Valley que t'installes tous les trois jours, quoi.
J'ai entamé Coral Island, qui est un jeu Stardew Valley-like disponible en accès anticipé sur Steam. Ce stream n'est pas sponsorisé par Coral Island, mais j'aimerais bien. C'est littéralement Stardew Valley, genre, le design de la maison, c'est exactement le même. Je t'avais, on se moque de qui? J'ai fait 2 heures d'affilée, je vais sûrement y rejouer ce soir après ce live. Bref, vous voyez quoi. J'espère qu'à la fin de ce live, salut Manu, on aura une réponse claire et précise à la réponse qui est le meilleur personnage de Parks and Rec, seule réponse possible.
Je m'y engage.
Alors tout à fait, on va parler de Parks and Recreation, une série comique disponible en ce moment sur Prime Video en France. Et on va en parler, on va vous la présenter déjà. Donc si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez rester. Normalement, ça va être accessible au moins pendant une partie du live pour vous. Mais à la fin, on a prévu une petite tier list des personnages pour les classer définitivement du meilleur au moins meilleur, sachant que t'as déterminé en avance que tous les personnages sont ton préféré, donc c'est compliqué.
Ouais,
quoi.
Sauf un.
Oh, suspense. Si vous avez une idée dans le... tu bluffes, Martoni.
Je vais deviner pendant ce live, mais moi j'aime bien tous les persos.
Ok, on en parlera au moment de la tier list. Mais avant ça, alors on va commencer avec une question pure et innocente de Mr. Black Baba. C'est quoi la différence d'humour entre Parks and Rec et The Office? J'ai l'impression qu'il y a deux teams. L'occasion de faire, et Zoc, c'est pour toi, un point contexte. Parks and Recreation, qui s'appelle comme ça parce que ça se passe dans le département qui s'occupe des parcs et des aires de jeu d'une petite ville fictive de l'Indiana qui s'appelle Pawnee.
C'est fictif?
Oui, Pawnee n'est pas une vraie ville.
Première
et
info.
Eagleton non plus. Il a bossé ce live. En vrai, j'ai pas toutes les infos non plus. Genre, j'ai littéralement pas ouvert la page Wikipédia de Parks and Rec. Tout ce que je vous dis, je le sais parce que je le sais. Parce que j'aime beaucoup Parks and Rec. Si je vous dis des bêtises, corrigez-moi dans le chat. Voilà, c'est Internet qui m'aura menti. Et c'est donc une série qui a été créée, entre autres, par Michael Schur, à qui on doit plus récemment The Good Place, notamment. On en parlera peut-être à la fin, puisque ça a été notre suite de Parks and Rec. Et c'est un des co-créateurs de The Office version américaine. Et à la base, Parks and Rec devait être un genre de spin-off de The Office, un héritage spirituel. Et d'ailleurs, il y a un vrai shift entre la première saison de Parks and Recreation, qui fait seulement 6 épisodes, et la deuxième, et ensuite la suite. Donc en tout, il y a 7 saisons. Ce shift, c'est que la première saison est beaucoup plus The Office dans son humour et notamment dans ses personnages. Donc c'est l'héroïne de Parks and Rec qui s'appelle Leslie Knope, elle est jouée par Amy Poehler, c'est la directrice du... Non, c'est pas la directrice, c'est une manager du département Parks and Recreation, puisque son chef c'est Ron Swanson, qui est un libertarien qui déteste le gouvernement, et du coup son but c'est de faire le moins de travail possible pour le gouvernement, saboter le système de l'intérieur, ok. Leslie, elle adore le gouvernement et son rêve c'est d'être présidente, d'être élue, vraiment elle est en mode la politique, la démocratie, c'est hyper important. Donc on a déjà un duo qui fonctionne bien. Mais dans la première saison, Leslie Knope est beaucoup plus antipathique. Elle est vraiment juste nulle, quoi. Et elle se laisse marcher dessus par tout le monde et elle a pas d'opinion et elle se défend pas, alors que ça devient une meuf hyper combative la suite. Du coup, toi qui as vu maintenant tout Parks and Rec et qui est plutôt fan de The Office, là où moi, The Office, j'arrive pas. C'est trop cringe. Je suis là en mode... Non, il me gêne trop.
Mais c'est aussi l'intérêt de
Steve Carell, hein, mais...
C'est l'intérêt de The Office, c'est que c'est un humour qui est basé avant tout sur le malaise. Et enfin, je trouve que c'est une série qui a masterisé vraiment l'utilisation du malaise comme moyen de faire de l'humour. Après, effectivement, si comme toi on est hermétique au malaise, bah en fait ça passe pas trop.
Je suis pas hermétique, mais quasi quoi. C'est genre, c'est vaguement poreux, mais vite fait. C'est très vite trop pour moi.
Et en fait, Parks and Rec va se baser sur le même type d'humour, à savoir aussi l'esthétique très mockumentary. Puisque bah je crois que Parks and Rec est un mockumentary, c'est une équipe de tournage qui tourne. En fait,
c'est jamais expliqué en fait. Il y a pas de prétexte. Alors je monte un peu les micros parce qu'on me dit est-ce qu'on peut monter un peu les micros. On peut.
Mais généralement t'as les mêmes plans, t'as les mêmes t'as les mêmes utilisations de la caméra, genre les zooms incisifs sur un perso d'un coup.
Avec les regards cam et les scènes confessionnelles.
Tout à fait.
Un personnage qui se confie à la caméra, qui débriefe quelque chose qui vient de se passer, comme Modern Family après, qui est une autre sitcom que moi j'aime beaucoup. Il y a un format mockumentary, mais il y a jamais une tentative de le justifier. Il y a jamais un truc comme il y a une équipe de documentaires qui nous suit dans ce monde de fiction. Non, c'est juste qu'ils parlent à la cam parce que c'est marrant.
Puis j'ai l'impression qu'il y a jamais non plus d'intervention de l'équipe de caméra, là où dans The Office par exemple t'as des moments où ils lui disent vas-y arrête de filmer casse-toi.
Oui.
Dans Parks and Rec t'as jamais ça.
Ils prennent jamais en compte. Enfin parfois ils regardent la caméra d'un air gêné en mode oh non je suis horrifié que quelqu'un ait filmé ça, mais c'est tout quoi. Il y a jamais d'interaction avec les caméramen et cette équipe de tournage qui les suivrait. Donc ça assume un peu plus que The Office son côté. Genre il y a pas besoin d'expliquer, c'est juste un style de réal. Et moi c'est un de mes styles de comédie préférés. Donc
quand moi je kiffe de fou. Enfin, en fait moi je kiffe à la fois The Office et Parks and Rec. Mais ils ont effectivement deux types d'humour différents. Parks and Rec je pense que c'est beaucoup plus comment dire.
Pour moi c'est wholesome.
C'est beaucoup
tu
plus
vois.
Bienveillant. Ouais voilà. Ouais. C'est un humour qui est beaucoup plus bienveillant, qui est moins dans on va dégrader les persos. À part le perso de Jerry dont on pourra reparler, mais...
Jerry, Gary, Terry, Larry.
C'est le seul perso qui se fait dégrader vraiment à longueur de temps dans Parks and Rec.
Parce que
mais dans The Office, tu vois, c'est en permanence tous les persos.
Bah je sais, c'est pour ça que j'aime pas, tout le monde est méchant avec tout le monde. Wow.
Mais, mais les regards... Ouais, effectivement, bah, comme le dit Stinian, les regards caméra de Ben...
Ben Wyatt,
tu vois, ça rappelle aussi les regards caméra de Jim dans The Office. Et donc ouais, en vrai, c'est deux séries qui sont différentes en termes d'humour, mais qui ont à peu près la même forme. Tu peux aimer l'une comme l'autre, je pense. Enfin, moi perso, je kiffe les deux, mais pour plein de raisons différentes, quoi.
Alors c'est marrant parce que je sais qu'il y a une grosse différence entre The Office et Parks and Rec, c'est que Parks and Rec, assez rapidement, à la fin de sa deuxième saison, se sépare d'un de ses personnages principaux, qui a un héritage de la saison 1. C'est un personnage qui s'appelle Mark Brendanawitz, qui est carrément le love interest de l'héroïne dans la saison 1, qui le reste un petit peu en saison 2, qui sort avec la meilleure amie de l'héroïne. Enfin, il est là pour... il a vraiment un rôle prépondérant. Et il disparaît, il revient jamais. Même dans la dernière saison, qui est une saison où Parks and Rec s'auto-référence et s'auto-fait hommage, et il y a des caméos. Genre, on n'a pas tout débriefé ensemble, mais dans le tout premier épisode de Parks and Rec, Leslie, elle aide un mec qui est coincé dans un toboggan dans une aire de jeu, parce que tous les habitants de Pawnee sont des gens maboules et incapables d'évoluer dans la vie normale, et ils ont fait revenir ce figurant qui fait du toboggan dans un des épisodes de la dernière saison, tu vois, et c'est le même gars, et genre ça sert à rien parce que personne saura que c'est le même gars, mais ils ont jamais fait revenir Mark Brendanawitz, genre vraiment une fois qu'il a disparu, il a disparu. Et la take, c'est que en gros c'était censé être le seul personnage normal et sain d'esprit au milieu d'une équipe de persos qui sont tous fous, parce que même Ron, il est maboule, tu vois, un petit peu, même Ben.
Mais tout le monde est maboule.
Il est un peu maboule.
Tout le monde est maboulitax.
Et en fait, j'ai l'impression que dans The Office, c'est Jim qui joue ce rôle de je suis le seul à me rendre compte que tous les gens ici sont frappadingues. Et dans Parks and Rec, en fait, ils ont viré leur Jim, quoi. Ils ont sorti le personnage qui représentait le mec normal. Parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir quoi en foutre, quoi. Et du coup, bah, Ben, c'est un peu le Jim, mais pas vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus, mais j'ai pas fait tout The Office, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus ma boule avec.
Sa
nerderie déjà.
Dans The Office, je pense que le prisme est un peu inversé. C'est pas genre, c'est pas il y a une personne qui va se rendre compte que tout le monde est ma boule. C'est, il y a seulement deux ou trois personnes qui sont ma boule. Enfin, t'as Michael Scott qui est donc dans The Office, l'un des personnages principaux joué par,
Steve Carell.
Steve Carell, évidemment.
Alors, il faut peut-être qu'on fait un point. Tu vas pas avoir tous les noms des persos et encore moins les noms des acteurs et actrices. C'est ok, ça fait partie de ma vie avec cet homme de lui trouver les noms des acteurs et actrices.
Très nul en nom d'acteur, mais bon, bref. Tu vois, dans The Office, Michael Scott est ma boule. Tu vas avoir Dwight qui est aussi dans une certaine mesure ma boule.
Dans une certaine mesure, il est.
Mais après, en fait, fondamentalement.
Est-ce que tu viens de dire Daniel Craig?
Non, Craig, qui est un perso dans The Office,
d'accord,
qui vole les PC.
J'étais là, est-ce qu'il croit que James Bond, c'est Dwight? franchement.
Putain, vraiment, je serais Miro de fou. Hein. Joué par Daniel Craig.
Je vis avec toi, vraiment.
Bref. Et donc, ouais, en fait, ils sont quasiment... En fait, ils se rendent tous compte dans The Office qu'il y a des gens maboules, et t'as souvent ces regards entre Jim et Pam, et ils sont plusieurs à être sains d'esprit. Là où effectivement, dans Parks and Rec, j'ai l'impression que tout le monde est maboule, mais d'une façon ou d'une autre, Tom est maboule.
Bah, il y a Anne un peu, qui en fait est un peu le perso le c'est plus vrai. Normal, parce c'est... que c'est, j'ai envie de dire, c'est quoi ces trucs à Anne? Bah, elle a tendance à perdre un peu son identité quand elle sort avec des gars.
Oui.
Et elle tolère quand même mon meilleur ami, Leslie Knope, qui est une personne d'une intensité extrême. Mais elle a un parcours plutôt normal et, enfin, tu vois, c'est, ouais, elle a des c'est réactions plutôt normales aux choses, il me semble.
Elle est narrateur, quoi.
On vient de binger tout Parks and Rec en quelques mois, car c'est la vie qu'on a choisi de mener. Voilà, on est indépendant. On peut, on n'a pas de, d'horaire de bureau. Et aussi, c'est du 20 minutes, ça se bouffe vraiment très très vite. C'est des bonbons, quoi. C'est des chips. Tu peux pas manger une chips.
Oui.
Mais
oui,
j'ai
oui.
pas à souvenir de moment où Anne est aussi frappadingue que le reste du cast, tu vois.
Bah, il y a le moment où vraiment elle s'habille quand même en cowboy.
Oui, mais parce que elle a ce truc, mais qui en plus, enfin, pour le coup, oui. Alors peut-être pas à ce point-là, mais j'ai connu des gens comme ça qui, dès qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, c'est leur nouvelle personnalité à 2000%, tu vois, et t'es là, maybe, genre, t'es pas obligé de faire un cosplay de ton mec ou de ta meuf, on peut aussi rester soi-même. Donc, je trouve ça limite réaliste, là où il y a d'autres prises de tête dans Parks and Rec qui sont vraiment beaucoup plus folle dingue, quoi. Il y a Fabi qui dit « Ben reste normal à l'échelle de Pony, genre son côté geek arrive assez tard et il est souvent là pour amener les autres à la réalité. » Alors c'est vrai, donc Ben, c'est un perso... En fait, c'est intéressant parce que pour moi, Parks and Rec trouve son rythme idéal, qui va durer plusieurs saisons, au moment où les personnages de Ben Wyatt et Chris Traeger rejoignent l'aventure,
oui,
ce qui arrive à la fin de la saison 2, si je dis pas de bêtises. Et au début, c'est des antagonistes puisqu'ils arrivent pour faire un redressement fiscal du département, enfin de la municipalité de Pawnee qui est endettée jusqu'au cou. Et du coup, bah le département des parcs et des aires de jeu va aussi devoir faire des sacrifices. Donc Leslie se place plutôt en vous êtes mes ennemis et vous voulez m'empêcher d'accomplir mes projets.
Ouais.
Et Leslie adore accomplir ses projets. Et pour moi, c'est une fois que ces deux personnages-là rejoignent le cast et qu'il y a des intrigues du coup qui vont autour, puisque ça va aussi devenir deux personnages à qui il y a des intrigues notamment amoureuses, mais pas que. Il y a aussi des intrigues professionnelles et amicales. Ce qui est aussi un truc cool de Parks and Rec, c'est que la romance, c'est pas si important. Tous les personnages trouvent l'amour, mais c'est pas genre le cœur de leur arc d'être en couple.
Oui, c'est vrai.
C'est assez cool, mais dans The Office, j'ai l'impression que c'était pas trop ça. C'était quand même le lieu de travail.
T'as une seule romance qui est la principale, c'est Jim et Pam, mais sinon après le reste.
Oui, genre Michael Scott, son histoire, c'est pas est-ce qu'il va trouver l'amour, quoi.
Non, c'est plutôt combien de fois sa meuf
quand
va
est-ce qu'il
le
va finir au prud'homme, finalement. Oui, voilà, c'est peut-être ça la question.
Mais non, effectivement, ouais, les romances sont pas genre au centre de l'intrigue, tu vois. C'est pas un. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'à la fin de Parks and Rec, tout le monde trouve à peu près l'amour, quoi.
Ouais, même Donna, même Tom, même Ron. Enfin, tout le monde s'est mis en couple. Et pour la plupart, on a eu au moins un épisode qui était dédié à, tu vois, Donna. Il y a un épisode sur sa re-rencontre avec son ex, qu'elle présente comme un mec complètement fou, alors qu'il révèle les pires parties d'elle-même, alors que c'est juste un mec trop doux. Et qu'elle, du coup, ça la rend trop douce, et qu'elle est là, je déteste qui je suis quand je suis avec lui.
C'est vrai.
Et du coup, bah, c'est Ron, en plus, qui se mêle des affaires de quelqu'un d'autre pour lui dire, peut-être que tu devrais t'intéresser à qui tu es avec lui, parce que peut-être, en tant que ton ami, je te dis que c'est une version de toi qui est pas mal. Mais, c'est jamais le cœur. La série commence pas en disant, est-ce que Leslie, elle va trouver l'amour? Est-ce que Leslie, elle va déjà se calmer, éventuellement, un petit peu, et accomplir son projet de parc, puis d'être élue au conseil municipal, puis d'être élue à l'échelle peut-être de l'État, puis d'être présidente un jour, qui sait, parce que c'est son but ultime. Mm-hmm. Le personnage de Ben, son arc, c'est plutôt aussi trouver son accomplissement professionnel et se guérir de son trauma. Donc Ben a été maire de sa ville quand il avait 18 ans et il a mis tout l'argent de la ville dans construire un centre comme un aqua boulevard mais de glace, quoi. Ice Town,
incroyable.
Et du coup, bah, il a mis sa ville en faillite et il s'est fait destituer et il avait 18 ans et c'est genre la honte de sa vie, donc c'est aussi réparer ce trauma. Et oui, ils finissent en couple et oui, il y a pas mal d'épisodes où il y a un arc de romance entre Ben et Leslie, mais déjà, elle est trop jolie, je trouve, cette histoire. Et c'est jamais le cœur de leur intrigue, quoi.
Oui.
Donc ça, je trouve ça assez cool.
Bah, en fait, je trouve que comme The Office, c'est une série dont, en fait, l'intrigue, c'est juste les relations entre les persos et l'évolution des persos. Par exemple, tu vois, j'ai encore oublié le nom de. Attends, Leslie.
Oui.
Ce qui est vraiment genre le perso principal de la série, quoi. Leslie.
Vous voyez, je l'aime.
Mais en plus, je le sais.
Mais je suis un peu fatiguée.
Fondamentalement, je le sais en plus qu'elle s'appelle
Leslie.
Bien sûr,
tu le sais.
Mais donc, bref, tu vois, Leslie n'est pas la même personne à la fin de la série qu'au début. Tout comme Ben, en vrai, non, ça va. Mais il change un peu aussi parce qu'il voulait pas rester à Pony à la base. Mais bref, les persos changent du début à la fin. Et c'était aussi une part super importante de The Office de voir que les persos peuvent évoluer et tu t'attaches à eux, et même les persos que tu trouves méchants ou que t'aimes pas forcément, ils restent en fait attachants. Et tu vas t'attacher à eux tout au long de la série. Dans Parks and Rec, tout le monde est gentil, donc en vrai ça aide. Il y a pas vraiment de
perso. Il y a des antagonistes. Oui. Alors dans les personnages principaux, oui, tout le monde est sympa, mais tu vois Tom, il est hyper égoïste.
Oui,
donc Tom Haverford qui bosse avec Leslie, il est hyper égocentrique, hyper égoïste. Il est incapable de faire quoi que ce soit pour les autres. Donna, elle est quand même hyper distante.
Très égoïste aussi.
Et elle pense plus à sa Mercedes-Benz qu'aux gens. April, elle aime personne.
Oui.
Andy, il est trop bête pour être fréquentable. Enfin, vraiment. Alors pour le coup, la première saison de Parks and Rec est vraiment à part. Mais dans la première saison, Andy, c'est il faut fuir, il faut pas. Enfin, il exploite Anne, mais d'une violence.
Ah,
tu te souviens qu'il fait semble, il garde ses
plâtres
plus longtemps.
Moi, j'avais oublié qu'il tombait dans le trou et tout. Enfin, genre, j'avais oublié même l'histoire même du trou.
Dans une tente, dans le trou, dans the pit, quoi.
Et ça, on l'apprend à oublier. Enfin,
il fait semblant d'avoir ses plâtres plus longtemps parce qu'il veut qu'elle continue à s'occuper de lui.
Oui, non,
genre vraiment, c'est le pire gars. Donc bon, ça fait partie. Vraiment, dans la première saison de Parks and Rec, il y a pas grand monde qui est aimable, juste qui est appréciable, quoi. C'est un peu plus The Office où tout le monde est la pire caricature, la pire version de lui-même. Et ensuite, ça devient beaucoup plus, ok, c'est des gens chelous, mais qui ont un grand cœur, finalement. Donc,
mais
ça
oui,
va.
En fait, c'est ça, quoi. C'est genre.
Mais il y a quand même des persos qui ont des défauts dans les persos principaux, des gros défauts. Et après, il y a des antagonistes. Il y a Jeremy Jam, il y a la meuf de Eagleton.
Il y a le médecin aussi, là, qui à chaque fois veut niquer les plans de Tom.
Oui, Saperstein,
oui.
Le père de Jean-Ralphio. Il y a Jean-Ralphio et Mona Lisa
joué par Ben Schwartz, que je connais évidemment le nom de l'acteur.
Waouh, il connaît le nom de Ben Schwartz, qui joue Jean-Ralphio et qui est aussi la voix de Sonic. Voilà, entre autres.
Alors, je l'ai appris
qualité.
Il y a 3 heures et du coup, j'ai maté une vidéo making of, enfin, une vidéo de son audition qu'il a passée pour le rôle de Sonic. Bon, c'est une vidéo mise en scène évidemment. Mais on lui file un costume
quoi
de Sonic.
C'est pas un vrai hérisson.
On lui file un costume de Sonic horrible. Et il doit faire genre « Hello les enfants !»
Attends, le truc bien, c'est qu'on peut regarder cette vidéo ensemble normalement si tout se passe
elle
bien.
Elle me met mal à l'aise cette vidéo. Je
alors,
tout à l'heure, elle me met mal à l'aise.
Dis-moi.
Ben Schwartz, Sonic.
Ok, normalement je vais pouvoir vous partager cette vidéo, mais par contre, est-ce que nous on aura le son? Je suis pas sûre.
Non, on n'aura pas le son. Donc effectivement, on va devoir...
On va imaginer. Ok.
Tu peux avancer à la moitié de la vidéo parce qu'en vrai, il se passe pas grand-chose au début. Il dit
okay.
Juste « Je m'appelle Ben Schwartz, j'ai joué Jean-Ralphio. »
Ok, alors attendez. Attendez, je vous coupe le son pour l'instant. Et après, je vous mettrai la vidéo. C'est la première fois que je stream une vidéo avec du son. Voilà, il n'y a pas de petite victoire.
Après, en vrai, c'est juste pour voir aussi la tête qu'il a en Sonic, tu vois. T'es pas...
Ah oui, c'est...
Ouais, c'est vraiment juste ça l'élément
okay,
fondamental de la vidéo.
Je vous le mets juste avant le reveal du costume, quoi. Et je vous mets les sous-titres parce que je suis sympa. Voilà, ça va être des sous-titres en anglais parce que j'ai pas le choix. Ok, normalement, tout va bien se passer. Je fais ça. Ok. Non, c'est là. Oui, il n'y a pas besoin de couper la musique d'attente car elle n'y est pas.
Et il te reste un truc à faire. En haut à droite, le truc...
Quoi? Ok, c'est un escape.
J'aime trop quand t'as des brain farts.
Mais j'ai pas fait ça, streamer l'audio du stream.
Là, tu...
Ah ouais, oui.
L'audio stream.
Ah oui, bah oui, ça aurait pas marché du coup. Ok, là normalement vous allez entendre ce qui se passe dans la vidéo, surtout si je décoche, mute. J'espère que ça va pas être trop fort, c'est parti. Ok. Waouh. Ah non, la dégaine, elle est dure. Est-ce que ça fonctionne?
Je pense que ça fonctionne. Le son de la vidéo.
Tu penses que ça hurle dans les oreilles
à
des gens, là?
Un peu, ouais.
Tu penses que c'est Ben Schwartz qui hurle? Je l'aime tellement. En vrai, c'est dur. On va faire la tier list, mais je pense que Jean-Ralphio, c'est mon préf dans les personnages secondaires. Oh, waouh. Ah ouais, c'est compliqué. Ah non, j'ai fait plein écran. Oh non. Oh non. Ok, c'est bon. Attendez, je vous remets sur nous. Ça me stresse moins. Voilà. Ah non, j'ai bougé la fenêtre de sa mère.
Au pire, c'est pas grave. Je pense qu'ils ont l'idée. C'est
oui,
que
mais si je veux mettre un autre truc, on peut pas. C'est bloqué pour toujours. J'ai raté pour toujours. C'est pas grave. C'est moi qui suis en train de me bagarrer avec mon setup de stream. Tout va bien se passer. Ok. Ok. Un airbag. Désolée, c'est une première. La philosophie de vie de Jerry, bosser mais surtout pour avoir du temps à soi pour profiter de la vie et des gens qu'on aime, n'est-ce pas la philosophie de Mimi? Alors, un peu, mais j'ai choisi un job mieux payé quand même que
t'es
Jerry.
T'es un peu une Jerry quand même, c'est vrai.
Rappelons qu'il a une énorme tub, quand même, néanmoins. Big Dick Energy.
J'avais oublié cette anecdote.
Oui, alors oui, mais on va parler, c'est bien, c'est une bonne transition, merci Traficote. Parlons du perso de Jerry et du running gag de tout le monde se moque de Jerry qui est un incapable, qui est en surpoids, qui fait des proutes, qui est pas toujours très malin, mais qui en fait a rien fait à personne. pour moi, c'est vraiment le truc qui jure dans Parks and Rec. Et j'ai l'impression que même la première fois que j'ai regardé la série, donc quand elle était diffusée, ça, tu vois, c'est pas un truc de oui, mais maintenant, avec les yeux de 2023, ça jure. J'ai l'impression que dès le début, ça fit pas du tout avec ces personnages qui sont tous quand même sympas, globalement. Et que, bah, notamment quand Leslie ou Ron ou pire Chris Traeger, ils se moquent de Jerry, je trouve, enfin, c'est horrible, tu vois. Je suis
en fait,
là,
c'est
vous
genre,
êtes trop méchant avec lui, quoi.
C'est communément admis que, genre, Jerry est nul et personne n'aime Jerry. Et tout le monde se moque de lui, mais vraiment au point de. À la base, il s'appelle pas du tout Jerry, il s'appelle Gary, mais les gens l'appellent Jerry, et après les gens l'appellent Larry, pour vraiment à
et
chaque
après,
fois.
Et après Terry.
Et après Terry, ça n'a aucun sens. Et ouais, donc c'est admis que tout le monde se fout de sa gueule, et tout le monde est méchant avec lui. En vrai, moi je pense qu'ils ont voulu se faire un kiff, un petit peu comme, enfin, ils se sont peut-être sentis obligés de le faire, un peu comme dans The Office, il y a le perso de Dwight qui est très souvent moqué, un peu de la même façon.
Ouais, mais Dwight, il est méchant avec les gens, tu vois.
Oui, alors que Jerry
alors
est gentil.
Que... Et du coup, bon, bah, je dis pas que ça excuse que les gens soient ouais. méchants, mais tu sens qu'il y a un truc de, il nous fait chier, celui-là. Alors que, alors Jerry, il est maladroit, oui. Pas toujours très efficace, certes. Et encore, en fait, quand on lui donne des tâches répétitives, en fait, quand il se met dans la zone, ouais. comme toi, quand tu joues à Factorio, le mec, c'est une machine, une machina.
J'aime bien que vraiment la comparaison, immédiatement, c'est Factorio. Quoi.
En vrai, elle marche ou pas?
Elle fonctionne.
Jerry, quand il colle des enveloppes, toi,
ouais.
sur Factorio, c'est un jeu avec des tapis roulants. Faut construire des tapis roulants pour optimiser le transport de ressources.
Moi, je te laisse, hein.
Et il y a des streams sur la chaîne de Nodus de Factorio. Allez voir si vous êtes curieux ou curieuse des jeux avec des tapis roulants qui rendent fou. Donc il est même pas incapable en tout, faut juste lui donner des jobs qui lui correspondent comme un bon manager, ce que Leslie Knope n'est pas visiblement, parce qu'elle préfère le rabaisser.
Ezoc, il a vraiment fait la commande contexte.
Oui, merci beaucoup Ezoc.
Il a donné deux fois le contexte.
Et on l'en remercie. Merci beaucoup Ezoc, c'est ma nouvelle commande préférée. N'hésitez pas à en user et en abuser dès que je donne du contexte.
Mais ouais, en fait, donc le perso de Jerry, je pense qu'ils sont un peu sentis obligés de le faire parce qu'ils l'avaient fait avant dans The Office et que... Peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il voulait un perso qui justement tranche avec le reste. En fait, moi, je trouve un peu ça bizarre aussi de... Ouais, en fait, ils sont tous généralement... Ils ont tous des discours basés sur être des meilleures personnes ou le développement personnel ou s'aider mutuellement. Et en fait, au fil de la série, ils deviennent de plus en plus gentils les uns avec les autres, j'ai
oui.
l'impression. Sauf avec Jerry, qui lui reste vraiment genre lynché tout le temps. Et ouais.
En fait, c'est la série qui se fait pardonner auprès de Jerry en, donc, comme dit Stinian, il a une vie perso parfaite, ça équilibre oui. un peu le truc, mais ça reste bizarre dans l'univers Parks and Rec qui est plutôt bienveillant. En effet, du coup, Jerry, il a une famille parfaite avec une femme adorable qui l'aime comme pas permis et qui, en plus, est extrêmement canon de beauté, ce qui est un running gag qui, en vrai, me fait beaucoup rire. L'incompréhension de, enfin, Ben Wyatt, ça l'énerve. Genre, l'absurdité de pourquoi cette meuf, elle s'est mariée avec Jerry, on sent que, tu sais, il dormira jamais à 100%
à
reposé
fois.
S'il a pas la réponse. Ouais. Et à chaque fois, il est là. Et ce bon vieux Jerry. Et en plus, à la fin, il devient pote avec Jerry. Donc vraiment, c'est un oui. des rares qu'il aime bien et qu'il assume. Il est là. Et ce bon vieux Jerry, qui a une femme qui est quand même beaucoup trop belle. Genre, c'est quoi?
À
elle s'est
fois,
fait laver
le
cerveau par la CIA dans les années 80 et on l'a jamais débloqué. Ça me fait trop rire. Donc voilà. Il a une super femme. Il a trois super filles. Il a une vie personnelle adorable, il prend sa retraite, il peint au bord d'un
alors,
lac.
Adorable, adorable, mais sa vie perso quand même, quand il y a des plans, les plans de Noël chez lui, là où il y a toute sa famille qui chante.
Ah bah c'est une maison de serial killer, oui.
Oui, non, mais voilà.
Leurs
ouais,
abat-jour sont probablement en peau de leurs victimes, oui. mais voilà, il a une vie en fait complètement épanouie par rapport aux autres qui galèrent à trouver l'amour, à trouver du sens à leur vie pro, à faire des choix compliqués. Lui, il est là. J'arrive, je pars à 16h, je suis avec ma famille, je dîne avec ma femme, j'ai un énorme pénis et je fais des peintures et on voit qu'il meurt à plus de 100 ans entouré
oui,
de
oui,
ceux
oui.
qu'il aime, etc. Donc la série, elle se fait pardonner envers Jerry, mais les personnages,
bah, ils s'en battent
pas
les
du tout.
Enfin,
quoi.
Vraiment, ils
ratent son pot de départ, genre
ouais.
Leslie Knope qui fait des anniversaires de la première fois qu'elle a cogné le coup de gauche de Anne, elle rate le pot de départ de Jerry avec qui elle a bossé pendant genre 28 ans. Enfin, j'étais trop triste, j'étais là, oh non. Oh, le pauvre. Et en fait,
il
y a hyper tôt.
Il est condamné, quoi. Il est condamné à être jamais aimé.
Il est maudit.
Il est vraiment maudit par la série. C'est.
Ouais. Bah, il y a Fabi qui disait ça à côté écrit, j'allais à The Office, comme on disait, qui colle pas parce que, effectivement, les persos ici ont des défauts, mais jamais de méchanceté envers les autres. Même Leslie est ultra méchante avec lui. C'est toujours gênant. Jerry, c'est le seul perso qui a rien pour contrebalancer tout ce harcèlement envers lui. Bah, du coup, il a cette vie parfaite, mais effectivement, il se défend pas. En fait, sa stratégie, c'est j'accepte, c'est mon rôle. Et même, il y a des moments dans la série où il se rend compte, en fait, on voit qu'il est lucide. C'est un peu comme quand on se rend compte que Forrest Gump, il sait qu'il est pas très malin. Où en fait, on se rend compte qu'il sait le rôle qu'il joue de bouc émissaire et de souffre-douleur et qu'il est là, t'inquiète, je vais prendre, s'il dit à quelqu'un d'autre, t'inquiète, je la prends pour moi parce que on a pas envie que ça t'arrive à toi, et j'ai pas envie que tu sois moi, et t'es là.
Il prend la balle, quoi.
Mais il a bossé là depuis 30 ans avec des gens à qui il a rien fait, et il est là, t'inquiète, je vais rester Jerry, t'as pas envie d'être Jerry, et tu fais, oh là là. C'est horrible, quoi. Et en plus, ouais, quand on le voit chez lui, il est adroit, il est pas genre, il se cogne pas partout et tout, enfin, c'est très bizarre. Et, alors, comme dit Guépard Solide, il y a le même genre de traitement avec les personnages de Hitchcock et Scully dans Brooklyn Nine-Nine, qui eux, en plus, en tout cas,
oui,
surtout Hitchcock, pour le coup, est misogyne et tout, enfin, c'est vraiment un gros crado, mais Scully, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre. Et c'est un peu la même vanne aussi, c'est des personnages en surpoids, plus âgés, etc., où je suis là, est-ce que tous les mecs gros, on est obligé de faire des vannes sur ils bouffent trop, ils bouffent n'importe quoi, ils sont un peu maladroits et tout. Bon, au moins dans Parks and Rec, on a Donna qui est un personnage en surpoids et une femme noire qui du coup représente en plus qui est très sensuelle et très sexuelle, ce qui est assez rafraîchissant, je trouve, même si ça... Mm-hmm. Alors ça rentre aussi dans un trope de la femme noire un peu animalisée, un peu ultra-sexualisée et assez matérialiste. Mais j'aime beaucoup Donna, je trouve que c'est un personnage qui reste quand même hyper positif et un personnage féminin qui en plus... apprend aux autres personnages féminins à développer leur féminité et leur sensualité. Ce qui
avec
cool.
Anne notamment, grave.
Oui, Anne qui est présentée comme la plus belle meuf de la série. Alors c'est même un running gag tellement Leslie est là. Non mais Anne est une étoile descendue des cieux. Enfin, il n'y a pas de comparaison. Moi j'avoue que Rashida Jones, I don't see it. Mais à chacun ses goûts. Et en fait, Anne elle est nulle en dating et c'est Donna qui est là. Oui. Gamine, tu me fais de la peine. Je pensais que c'était de la compétition, mais c'est vraiment une... un genre
elle
de bête blessée sur le bord de la route, tu vois,
elle
est là. Elle
finit par lui donner des conseils, genre vraiment sur comment dater, comment parler aux...
Ouais, mais
par...
avec un peu de pitié, tu vois.
Oui, oui,
elle
mais...
est là, genre, pff, miskine, gamine, c'est chaud, quoi, on va devoir t'aider, quoi. Il y a un côté trophy family pour se faire pardonner envers Jerry, sa femme belle est une belle récompense pour s'excuser, etc. Oui, bah après, c'est pas une série qui est parfaite sur le point du wokisme, n'est-ce pas ? Mais je pense que c'est une série qui, pour son époque... a quand même déjà un bon boulot de représentation, de diversité en tout cas dans son cast, puisque déjà on a une femme en héroïne, ce qui n'était pas le cas dans The Office, ce qui est de nouveau le cas dans The Good Place qui arrive après. On a quand même, on a Tom qui est d'origine indienne. Alors l'acteur, je sais pas, mais le personnage d'origine indienne. On a Donna qui est une femme racisée. On a Rashida Jones qui est afro-américaine, même si ça se voit moins selon les règles en vigueur aux États-Unis. On a... Aubrey Plaza qui joue April, qui est originaire de Porto Rico, et son personnage aussi. Son personnage en tout cas l'est, donc qui représente aussi une communauté latino-américaine. Donc il y a quand même pas mal de diversité dans le cast pour une série de ces années-là, qui arrive quand même dans les années, début 2010, où c'est pas encore United Colors of Benetton, la télé, et notamment les sitcoms. Bah, The Office, c'est très très blanc pour le coup, là, par exemple.
Il y a un perso noir dans The Office, vraiment. Je sais plus comment il s'appelle, mais
Et il y a Mindy Kaling qui joue une perso indienne, enfin d'origine indienne.
Oui, tout à fait.
Que j'avais vu dans un des épisodes de la saison 1 où il y a un genre de formation contre le racisme.
Oui.
Organisée par, c'est horrible. Oui. C'est très dur.
C'est horrible.
C'est vraiment, j'ai pas été beaucoup plus loin que cet épisode. J'étais là, ah, ça commence fort.
Mais tu vois, genre même dans The Office, je trouve que les persos racisés sont souvent dans genre la représentation via les clichés et tu vois, le Renoir, il s'endort au travail, il va très souvent le chipper et tout machin. Enfin, c'est très exagéré, quoi. C'est très exacerbé.
Oui.
Et en fait, genre, enfin, ouais, c'est des
archétypes. C'est des archétypes qu'on ferait peut-être plus en 2023, quoi.
Oui, et c'est là que tu vois aussi que la série commence à avoir 10-15 ans, quoi. Je trouve.
Oui, ça se date un petit peu.
Daryl et Stanley dans The Office. Merci, j'avais oublié Stanley. Mais en plus, c'est l'un de mes persos préf, mais il est constamment vanné. Bref.
Comment tu conseillerais Parks and Rec à quelqu'un qui l'a pas vu? Avec carte challenge TTMC sans faire référence à The Office.
Bah ouais, non mais c'est ça plus compliqué, quoi.
Parce que moi pour le coup je suis très peu The Office, donc c'était plutôt un truc rédhibitoire pour moi la comparaison et l'héritage The Office. Et en plus j'ai peu de ref, donc si on me dit c'est un peu à la The Office mais en pas cringe, je suis là, pour moi c'est le seul truc de The Office dont je me souviens, c'est le cringe, donc je sais pas trop ce que c'est.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je veux dire, comment tu l'as conseillé pour toi? C'est quoi les aspects cool de cette série?
Bah en vrai, c'est, je pense, je parlerai avant tout de la relation entre les persos et du fait que ça arrive à être drôle sans être malaisant, sans être tu vois, enfin, je prends l'exemple de sitcom que moi j'ai beaucoup maté, comme par exemple How I Met, qui sont généralement drôles par bah, la misogynie, drôles par plein de trucs un
je
peu.
Je sais pas de quoi tu parles.
Un peu voilà quoi. Par scénario, j'ai pas cette impression-là. Et en vrai, c'est une série qui arrive à être drôle juste par les relations entre les persos. Il y a toujours un perso auquel tu vas t'attacher, tu vas finir par t'attacher, même peut-être 8 comme moi.
Ah ouais, ça va être une longue tier list. Hein.
Ça va être une très longue tier list. Et ouais, en fait, il y a toujours, enfin, tu corresponds toujours à un perso dans Parks and Rec, et c'est aussi l'un des points forts de la série, selon moi, et ce qui m'a fait grave kiffer, c'est que il y a un épisode où je m'identifie à Ron, l'autre où je m'identifie à Tom, l'autre où je m'identifie à Anne, où je m'identifie à machin, et en fait, ils sont tous super attachants. Et en fait, à la fin, ça devient un peu ta deuxième famille, et bah, t'apprends à les connaître au fil de la série, et t'évolues avec eux, enfin, t'évolues pas avec eux, mais eux évoluent au fil de... Enfin, si, en fait, ouais, ça évolue au fil des épisodes. Et ouais, il y a ce côté un peu genre, t'es content de retrouver ta famille, quoi. T'as l'impression de connaître
ouais,
des proches.
Ouais, c'est tes potes. C'est... Je trouve qu'il y a ce côté collègue aussi, tu vois.
Grave.
C'est ta... En plus, bah, là, du coup, toi, t'as pu la binger parce que tout est dispo, du coup, sur Prime.
Ah bah, les 7,
moi, je l'ai
saisons,
vécu,
là.
Alors pas tout, mais au moins les 3 dernières saisons, je pense, je les ai regardées en cours de diffusion. Donc, j'avais un an à attendre ouais. entre 2 saisons. Et il y avait ce vrai côté, genre un peu comme quand tu reviens des vacances d'été et que tu retrouves tes collègues, tu vois, et que...
Vous m'avez manqué.
Ouais, et t'as envie de leur raconter des trucs. Et du coup, bah, il y a toujours une petite coupe de cheveux différente, d'un truc comme ça qui marque le changement de saison. Pour moi, il y a ce côté. En fait, les séries que j'aime le plus, c'est les séries où c'est les personnages qui comptent, quoi. En vrai, c'est les personnages et dans une un peu moindre mesure l'histoire, beaucoup plus que le pognon ou la cinématographie ou machin. J'ai eu ça avec Lost, alors c'est pas exactement la même série que Parks and Rec, mais dans Lost, il y a au moins 2 saisons où je comprends plus rien parce que ça part en vrille, mais je suis juste contente de voir les personnages, je suis contente de retrouver mes potes. Et Parks and Rec, alors on pourra parler un peu plus tard parce que ça va peut-être spoiler quelques personnes qui sont encore là, qui n'ont pas vu la série, mais on pourra peut-être parler de la dernière saison et du choix audacieux qu'elle fait, puisqu'il y a un time jump entre les 2 dernières saisons, et du coup... ça a pas plu à tout le monde la dernière saison, et son côté très autoréférence, très hommage,
ouais, c'est une structure différente aussi, enfin c'est un peu particulier à suivre parfois, enfin
oui gros... ça c'est un peu Tenet de Christopher Nolan, quoi. Ça saute entre différentes périodes, on comprend que plus tard pourquoi il y a des relations entre les personnages qui ont changé, et c'est bah du coup peut-être qu'en enchaînant tout c'est moins brutal comme rupture, mais quand t'attends depuis un an la dernière saison de Parks and Rec et que t'es là, ok, d'accord, c'est plus exactement la même série. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'étais là, c'est pas grave, c'est mes copains. Je suis juste contente de retrouver mes copains.
Oui, non, mais grave, enfin, t'as vraiment ce côté attachement. Et moi, enfin, à chaque fois que je lance Parks and Rec ou que même que je lance en vrai The Office, et c'est un peu les mêmes mécanismes à ce niveau-là. Il y a ce côté série pantoufle et t'es content. C'est des lieux que tu connais, c'est des bureaux que tu connais, c'est des gens que tu connais, c'est des histoires que généralement tu connais parce que t'as beaucoup de running gag dans Parks and Rec, et c'est ce qui fait aussi le charme de la série.
Oui, je trouve qu'au final, cette fausse ville, elle devient vraiment, pour utiliser une formule un peu galvaudée, un personnage à part entière, n'est-ce pas, de la série. Pawnee, c'est vraiment genre over the top. C'est tous les défauts des petites villes et des États-Unis spécifiquement. Il y a tout un propos notamment sur l'obésité, sur des habitants qui ont une vision très très réductrice du monde, sur des médias locaux qui peuvent dire un peu n'importe quoi en toute impunité parce que les gens croient tout ce qu'ils voient à la télé. Mais je trouve que c'est... En fait, comme Leslie, elle adore sa ville et les habitants de sa ville et qu'elle passe ses journées à essayer de leur rendre service, c'est jamais condescendant, genre...
Ouais.
Ah, on a quand même l'impression que c'est des gens qui font des séries à Los Angeles pour se moquer des ploucs, tu vois, qui vivent ailleurs. Là où dans The Office, il y avait peut-être un peu plus ce côté... Regardez cette petite ville de province nulle où personne n'a envie de vivre.
Dunder.
Dans Parks and Rec, alors je dis pas que j'ai envie d'emménager à Pawnee parce que vraiment genre c'est très dangereux, faut pas vivre là-bas. Je pense que l'eau est empoisonnée. Tu comprends pourquoi Leslie elle aime bien, et t'as quand même des personnages qui sont attachés et qui défendent la ville quand elle est attaquée, notamment par Eagleton, les voisins riches d'en face. Donc je trouve que c'est malin d'avoir réussi à créer cet univers fictif, mais dans lequel bah tu vois t'étais là en mode ah c'est pas une vraie ville.
Bah oui, parce qu'en fait, enfin moi, tu m'aurais pas dit que Pawnee Indiana n'existe pas. Je pense que c'est une vraie ville, quoi. Et Mais en plus, c'est d'autant plus bizarre qu'ils l'inscrivent en fait vraiment dans le monde réel de la vraie vie véritable, avec justement des vrais parcs à la fin. Enfin, tu vois, genre, ils parlent de vrais états, ils parlent de vrais parcs. Quand Leslie, elle monte et qu'à la fin, elle est genre directrice nationale des parcs pour le gouvernement.
Des parcs nationaux, trop bien.
Des parcs nationaux, tu vois. Enfin, genre, ils font mention de vrais, vrais lieux. Et moi, je me dis, bah ouais, c'est normal, Pony,
Pony, Chicago, New York, les États-Unis, quoi. Il y a Fabi qui dit, un des nombreux trucs géniaux dans Parks and Rec, c'est que les persos ont des objectifs. Ils sont drivés par des trucs pro et perso. C'est hyper rare dans les sitcoms, même Brooklyn Nine-Nine, alors que ça construit les personnages de fou. Oui, c'est vrai que, bah, là où les sitcoms sont souvent très épisodiques, et du coup, les personnages sont, bah, comme les Simpsons, c'est le meilleur et le pire exemple, parce que c'est de l'animation, donc on peut les faire durer 40 ans, et ils vont jamais changer, en fait, tu vois. Bart, ça sera toujours un gamin, et Homer, ça sera toujours Homer.
Lisa a 8 ans.
Et ils vont avoir des arcs et des objectifs, mais qui les changent jamais, parce qu'il faut continuer. Parks and Rec, c'est une série qui est dans une narration un peu plus classique, et qui, du coup, développe ses personnages comme le ferait une série dramatique. Sauf que, il y a beaucoup de blagues entre temps, mais effectivement, les persos, ils évoluent, ils ont des actes qui ont des conséquences, qui reviennent parfois à la saison d'après, genre, bah, vous avez fait ça, et bah, notamment, il y a toute la romance entre Leslie et Ben, alors qu'ils travaillent ensemble, et que Chris Traeger, qui est le chef de Leslie, le chef des deux, a une règle de non, il n'y a pas de romance au boulot, c'est interdit. Bah, en fait, quand c'est découvert, c'est pas tout c'est bien fini et on reprend comme avant, c'est bah, du coup, Ben il démissionne. Mm-hmm. Et du coup, il doit trouver un boulot, ce qui donne lieu au running gag de la boîte de comptabilité qui rêve de l'embaucher. Qui est...
C'est l'un des
franchement, toi, devant ce running gag, à chaque fois que tu vois y arriver le gars, t'étais là. Oh, c'est le comptable.
Il est incroyable. On l'a revu dans c'est dans The Good Place ou
salut
dans un
Pepsou, truc. Salut Noda, hello. On l'a revu dans The Good. Non, on a vu un mec qui lui ressemblait. Mais c'était pas lui. Voilà.
Mais c'est toujours le meilleur running gag et à chaque fois vraiment.
Salut Aurélien. Attendez, est-ce que j'ai raté un raid? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des nouvelles personnes? D'où? Bah non. D'accord. Bah vous êtes tous arrivés en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Si. Qu'est-ce qui se passe?
Ah.
Takeo da Creator.
Point d'exclamation OnlyFan. Ça c'est
yes. Incroyable. Pepsou, je pense que t'es au point d'exclamation argent. Ah, Ezoc, je te laisse enquêter, Ezoc. Franchement, des barres, si mon premier raid haineux, c'est pendant que je parle de Parks and Rec avec toi. En vrai, ça me fait trop rire.
Des grosses barres de rire.
Il y a Traficote qui disait, donc je t'avais demandé comment tu recommanderais Parks and Rec à quelqu'un. Et il y a Traficote qui dit, je peux pas le recommander sans souligner que ça devient bien qu'à la saison 2. Parce qu'en effet, quand tu commences à la saison 1... Même si elle dure que 6 épisodes, tu peux, surtout si t'es en 2023 et qu'on te l'a un peu hypé, par exemple dans des streams de Mimi, comme une des meilleures séries comiques, voire peut-être la meilleure série comique du monde, tu regardes la saison 1, t'es là...
Bah en fait c'est un peu...
Bif bof quoi.
C'est vrai que enfin, j'ai l'impression que ça se... Comment dire, ça passe vraiment à la deuxième à partir de, bah ouais, de la deuxième saison. Et ça prend de la vitesse et ça s'inscrit et voilà. Mais je sais pas, en fait moi je me souvenais même plus que la... Enfin t'en as reparlé tout à l'heure, mais je me souvenais même plus que la saison 1 était si différente du reste de la série. Je me souvenais plus du trou et tout, ok. Mais c'est vrai que c'était effectivement un peu plus dark et beaucoup plus The Office.
En vrai, si un de ces quatre, tu vois, il y a un jour un peu plus vieux où toi et moi on n'a pas trop de taf, on re-regarde la saison 1. Parce que voir la diff, quand t'as vu toutes les saisons d'après, revenir, ça fait vraiment un choc de « Ah ouais, ok, non, vous, c'est pas les mêmes persos, quoi, une fois que tu les as vus se développer. »
Je pense aussi fondamentalement que tu peux pas, enfin, comment dire, créer de l'attachement aux persos en saison 5 ou en saison 6, ça passe aussi par cette première saison un peu bizarre, parce que ça te permet de voir les persos changer au fil de la série.
Oui.
Et ça te permet de les voir évoluer, et par exemple, tu vois, je suis super content de voir le chemin qu'a fait « Ne me dis pas, je vais la voir ».
Je dis rien.
Le mec de... Putain, mais Chris Pratt, quoi.
Andy Dwyer.
Andy, bah tu vois, je suis grave content de voir le chemin qu'il a fait, même que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement. Il évolue, il a une vie de couple, il est un peu plus adulte. Même, ils en font même une vanne dans les derniers épisodes, justement, en disant avec April qu'ils deviennent un couple un peu plan-plan.
Oh mon Dieu, on est chiant.
Parce que justement, ils évoluent au fil de la série. Et je pense que c'est un peu plus compliqué de t'attacher à Andy... Si t'as pas justement cette saison, enfin ces premiers moments où tu vois qu'il est en mode full miskin, que Anne, pareil, elle est, enfin ils ont un rapport très différent.
Oui, bah Anne, donc, elle se laisse bien rouler dessus par la vie, quoi. Mais du coup, elle développe son rapport aux hommes et c'est un de ses arcs principaux à Anne, alors que Andy, ok, un de ses arcs principaux, c'est devenir un petit peu adulte. Mais il y a pas trop de moments où il est là, j'ai vraiment fait de la merde avec Anne, tu vois. Il y a pas, en fait, il y a pas d'arc. Et c'est intéressant par rapport au féminisme très assumé de Leslie, ce qui est aussi assez rafraîchissant dans une série de ces années-là, en vrai, d'avoir une héroïne qui est féministe, et en plus, j'ai envie de dire, un peu féministe à l'ancienne. Elle a des icônes féministes, genre Ruth Bader Ginsburg, qui était une juge de la Cour suprême pendant très longtemps, qui a décédé il n'y a pas longtemps, et qui a beaucoup porté les droits des femmes, et notamment l'accès à l'avortement, qui depuis sa mort est malheureusement menacée. Donc, elle a en plus cette idée du féminisme un peu comme une Française qui serait fan de Simone Veil, tu vois, ou de Simone de Beauvoir. Ouais. Et... il y a jamais un moment où elle roule sur Andy parce que en fait il y a cette idée de charge mentale qui est pas encore présente, tu vois, dans l'imaginaire collectif, de en fait t'es pas censé laisser ta meuf, enfin t'es un con avec Anne, de l'obliger à s'occuper de toi tout le long, tu vois, et tu devrais faire tomber à culpa, quoi.
En fait je l'aurais, enfin tu vois, moi je la vois, c'est marrant parce que je la vois pas tellement comme une perso. Bah alors oui, enfin elle est attachée, et enfin je pense qu'elle est, comment dire, elle est féministe, son perso est féministe, mais tu vois, c'est pas non plus, elle est pas dans un engagement au point d'aller convaincre les autres persos, genre Andy, qui font de la merde.
Ok, tu vois ce que tu veux dire, genre elle fait pas du prosélytisme féministe auprès de ses... Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un moment ou deux où elle embrouille Ron, et Ron doit lui rappeler, fait j'aime les femmes, enfin je défends les femmes fortes, je suis pas du tout dans un truc sexiste et tout, alors qu'avec Andy jamais, quoi. Mais aussi parce que dans la saison 1, où Andy il est vraiment détestable, bah je pense que Leslie c'est pas encore ce personnage là, tu vois. C'est justement, oui, il l'avait pas encore trouvé, c'est plus une meuf, quasi un peu cette meuf Karen hystérique, tu vois, psychorigide, mais qui adore faire des classeurs et du scrapbooking dans la vie. Et
elle aussi a changé, tu vois, au fil de la série. Et ouais.
Oui, clairement. Alors c'est incroyable ce qui se passe, parce que je sais de sources sûres que Fabi a vu Friends 1 milliard de fois, ok. Et il y a Traficote dans le chat qui vient de lui apprendre que le comptable dans Parks and Rec qui veut embaucher Ben, il joue dans plein de trucs, dont un épisode de Friends où il est fan de Ross et il essaye de le choper après une conférence. Et Fabi n'avait jamais fait le lien.
Incroyable.
Entre les deux, c'est la même personne. Donc ravi, merci Traficote de connecter les points pour nous. Bonjour, connaissez-vous Community, la vraie meilleure série? Oui, alors en vrai, j'aime bien Community, que j'ai quand même vu qu'une fois dans ma vie, et pas en entier. Mais j'avais pas détesté, je pense que pour le coup, c'est un peu trop absurde à mon goût. Ça allait plus que Parks and Rec. Dan Harmon, qui a fini par créer Rick and Morty,
tout
donc quand même un ride. Voilà, Rick and Morty, c'est pareil, j'ai vu 3 saisons. Il y a eu 1 saison et demie, 2 saisons où j'étais là. En vrai, c'est rafraîchissant, même si il y a quand même un perso qui parle en gros, quoi, et c'est that's the joke. Donc j'étais là, oula, ok, on va y aller.
C'est aussi un running gag qu'on retrouve dans à peu près toutes les œuvres de Dan Harmon.
Ouais, voilà, il y a un humour des fois un peu trop bas de plafond et un peu trop nihiliste, en fait. Community, c'est quand même moins feel good que Parks and Rec, on va pas se mentir.
Ouais.
Et c'est un peu trop absurde. Mais alors, il y a Josh Holloway qui joue Sawyer dans Lost, qui a un petit rôle de cowboy dans Community,
okay,
où il fait du, tu sais, Sawyer, le beau gosse.
Non, mais je l'ai.
Où il fait du paintball en cowboy dans l'université dans Community. J'étais là. Josh Holloway, qu'on n'avait pas beaucoup vu, hein, depuis Lost. Les acteurs de Lost et les actrices de Lost ont pour beaucoup fait Lost. Et c'est déjà pas mal.
Mais non, mais Charlie, il a fait d'autres trucs.
Charlie, il a fait Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
Il a fait Mary, mais tu vois, il a fait Le Seigneur des Anneaux.
Et c'est tout.
Il y a 20 ans.
Oui, mais c'est vrai que
il
Jack
a sûrement fait
vois,
des trucs depuis.
Oui.
Jack, pour le coup, a priori, donc Matthew Fox a eu des problèmes personnels de type rapport à l'alcool et potentiellement, mais c'est pas sûr, peut-être avec des femmes. On ne sait pas. Bah, je ne sais pas. Mais a priori, là, il fait son comeback. Il joue dans une série cette année, donc à voir s'il y a des trucs qui ressortent ou pas. Evangeline Lilly a fini dans Le Hobbit et dans Ant-Man. Je pense que c'est une des actrices de Lost qui s'en est le mieux sortie, en vrai, parce qu'elle est dans le MCU quand même.
C'est vrai qu'elle est dans Ant-Man.
Jack
bon, après,
could never.
Elle est pas non plus dans le meilleur.
Alors elle est pas dans, mais elle est dans les deux Ant-Man, tu vois, okay, et elle l'a fait un truc dans un autre Marvel. Enfin quand même, tu vois, c'est le personnage secondaire de deux films Marvel. C'est pas mal quand même pour une meuf de Lost.
Les persos de Lost, j'ai l'impression qu'ils ont rien fait d'autre que
Ils ont fait de la télé, tu vois, il y en a pas mal qui ont fait des séries télé, mais après je pense que c'est le genre de série où c'est dur de pas être ce mec de Lost quand on sort, tu vois, ça a tellement marqué les gens que c'est dur de pas être ce mec de Lost. Et pour moi, à chaque fois que je vois Amy Poehler, c'est Leslie Knope, tu vois, elle a une carrière donc très Saturday Night Live, qui est un truc que moi je regarde peu, qui est peu accessible en France et qui est quand même très américain et très souvent absurde dans ses références et dans son humour, et très souvent qui parodie du coup des trucs de culture très nationale américaine qui sont pas forcément arrivés jusqu'à nous, donc c'est pas toujours hyper limpide. Et elle a fait des quelques comédies longs métrages et elle joue la mère dans Lolita malgré moi, Mean Girls, qui dit okay. I'm not a regular mom, I'm a cool mom. C'est Leslie Knope. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont connecter les liens. Mais elle a pas, voilà, c'est pas une carrière.
Oui.
Enfin, Angelina Jolie, quoi. Et dans ma tête, c'est toujours genre, c'est Leslie Knope.
Bah, tout comme, tu vois, j'arrive perso pas. Enfin, là, je commence à m'en détacher un peu, mais c'est compliqué. J'arrive pas à regarder Steve Carell sans penser à Michael Scott. Je le vois constamment.
Alors qu'on a vu The Morning Show, alors où il joue à un présentateur de télé, dedans, Very Me Too Weinstein, et petite beubarde d'Adi Carell. Lui, pour le coup, tu sens qu'il y a eu un moment où son agent lui a dit on va arrêter d'être Michael Scott dans la tête des gens, et on va devenir d'Adi Carell. Et ça a marché.
Bah, depuis, c'est d'Adi Carell, et on adore, évidemment.
Oui, c'est vrai, Ian Somerhalder, Boone dans Lost. Tu te souviens de Boone dans Lost?
Attends, je l'ai. Boone, évidemment. Boone, c'est... Je l'ai de fou, c'est... Le mec qui meurt avec les araignées. Pas du tout.
Non, lui, c'est Polo. Voilà, qui est joué par Rodrigo Santoro, qui c'est un des bottles épisodes de Lost, grève des scénaristes. Non, Ian Somerhalder, Boone, c'est, tu sais, dans la saison 1, celui qui a les yeux bleus, le BG, okay. qui trouve la trappe avec Locke.
Ok, oui, oui. oui.
Et qui, Shenanigans, donc voilà, oui, il a fait une saison de Lost et Vampire Diaries, c'est vrai. Non, mais voilà, ils ont fait de la télé, les gens de Lost, mais ils n'ont pas fait des carrières toujours folles. Ok. Question à 1000 euros avant de passer à la question à 1 million qui est la tier list des personnages. Ah ouais. C'est quoi tes running gags préférés de Parks and Rec, qui est une des meilleures séries pour qui aime les running gags?
Alors, j'y réfléchis. J'ai vraiment étudié la question.
C'est faux, je t'ai posé la question genre 10 minutes avant
mais
le live.
Je l'ai quand même bien étudié. J'ai déployé 100% de mes capacités mentales pour réfléchir à la question.
Merci de ton professionnalisme.
Je pense que mon running gag... Alors, je peux faire un top 3?
Oui.
Ok.
Faites-le aussi dans le chat. Comme ça, faites le vote dans le chat, comme ça, on verra.
En troisième position, on a... J'ai pas le 3 pour l'instant, j'ai le 2 et le 1. En deuxième position...
Vous voyez avec quoi je dois composer ?
Je vous fais le 3 juste après. J'ai le 2 et le 1. Le 2, c'est Jean-Ralphio et sa sœur. Vraiment, à chaque fois qu'ils viennent, c'est genre... En fait, ils ont une relation où c'est vraiment Jean-Ralphio, c'est la sœur de Jean-Ralphio, c'est Jean-Ralphio en mec et vice versa. Ils sont tous les deux extrêmement teubés.
Mais je trouve qu'elle est pire, elle est plus méchante que lui. Jean-Ralphio, il est principalement con et il arnaque genre les assurances et tout. Quand elle sort avec Tom, il est pas bien, tu vois. Genre on est déjà en border agression sexuelle. Bon, ça, on va dire, c'est l'époque, ok. Ok, c'est dans une série comique, mais juste elle est odieuse avec lui, tu vois. Ouais, alors que genre Ralphio fait quand même, il veut être son pote. C'est juste qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas hostile, c'est juste qu'il est pas câblé comme ça.
Donc je pense que chaque arrivée de Jean-Ralphio, à chaque fois, je suis content parce qu'en plus il parle vraiment, mais il a une façon de parler où il extériorise tout en chantant. Il fait genre je n'ai pas de maison.
The worst.
Il est constamment comme ça. Donc ça, c'est mon top 2. Top 1, c'est chacune des entreprises ratées de Tom. Notamment, mais en fait, j'adore quand il arrive avec Entertainment 720, où justement, il est avec Jean-Ralphio.
Un très bon arc, Entertainment 720, j'adore. Où ils dépensent juste toute leur thune.
À chaque fois, tu vois, genre, ils ont invité un joueur de base. Donc en gros, avec Jean-Ralphio, le fameux perso, ils ont fondé une boîte d'entertainment où, en gros, ils ont pas de business model, ils ont pas de plan,
You get to spend money to make money. Ils ont Jean-Ralphio qui a eu des sous d'une assurance parce qu'il s'est fait rouler dessus par une Lexus. Ah non, oui, là, il a fait une fraude à l'assurance. C'est plus tard, la Lexus. Car c'est son revenu universel en plus des sous de son baron. Mm-hmm. Et il a dit à Tom, vas-y, on monte une boîte. Ils ont monté une boîte. En dépensant l'argent de Jean-Ralphio, mais il n'y en a pas beaucoup qui rentrent.
Leur business model, c'est de dépenser de l'argent pour avoir des trucs cool. Genre, on va avoir un basketteur qui est payé toute la journée pour mettre des paniers
pour
dans
faire
le
des
hall.
Dunks.
Et le mec est là, genre, en fait, ça me saoule de fou, là.
Il essaye de leur donner des conseils financiers, le basketteur. Il est là, si vous remplissez tel formulaire et tout machin, et ils sont là en mode, on s'en fout, fait des dunks et tout.
Alors, en vrai, je vois Fanny qui cite Lille Sébastien. Perso, moi, genre, c'est pas mon running gag.
Est-ce que t'es le Ben Wyatt de ce stream, du coup? Est-ce que t'es là en mode? C'est juste un petit
En fait, c'est une bonne vanne, tu vois, genre, une fois.
Mais c'est pas la vanne, genre, en vrai, c'est les eye contact caméra, les regards caméra de Ben à chaque fois que ça parle de Lille Sébastien. Pour moi, le running gag Lille Sébastien, c'est pas, c'est déjà, ils deviennent tous fous pour un mini cheval.
Je vais juste me moucher,
j'arrive. C'est absolument absurde. Merci d'avoir coupé ton micro pour te moucher. Mais la vraie vanne, c'est Ben qui fait croire qu'il a compris le truc et qui va garder jusqu'à sa mort le secret de il a pas compris le truc, il a pas compris l'intérêt de Lise Sébastienne, et plus les gens en parlent, ce qui revient du coup très très souvent dans la série, plus il regarde la caméra avec un air complètement quasi terrorisé de je comprends toujours pas le délire avec Lise Sébastienne, et at this point I'm too afraid to ask, tu vois, parce que les gens sont tellement hostiles quand ils demandent que du coup ça marche pas.
C'est bon.
Et attends, et en top 3, il m'en fallait en troisième.
Fabrice Florent. Hello.
Il me fallait un troisième. Coucou Fab. Il me fallait un troisième.
Bah, je peux t'aider si tu veux. Alors, les gens, ils ont cité les ex-femmes de Ron, donc les deux Tammy. Ouais. Tammy Too et Tammy Wan, mais Tammy Wan, on la voit qu'une fois, il me semble. Ou deux. Non, une fois. Il y a que l'épisode où elle vient et elle fait le Tammy Too contre oui. Tammy Wan contre la mère de Ron. Non, Tammy Wan contre la mère de Ron contre Leslie. Elles boivent de l'agneau, tu sais.
Ah oui, exact. Oui, oui.
Et Ron, il arrive et il finit. Vraiment, par contre, le chat, elle était devant la cam, donc. Choisis ouais. Fais un choix de vie et merci de ton choix de vie, c'est de me mordre.
Momo, allez. Et
dresseuse de fauve ou bien.
Moi, je crois que c'est Tammy de ma préf, mais c'est
oui,
mais,
qui, est...
mais qui devient un perso vraiment intéressant à partir du moment où elle devient unhinged de ouf.
Genre, ça arrive vite quand
elle
même.
Elle se met à poil dans une bibliothèque et là, je suis là, genre. Là, c'est un bon perso.
Mais attends, elle se met à poil dans une bibliothèque et il y a Leslie qui lui écrit dessus et il y a sa collègue qui fait. Chut, une bibliothèque.
Mais genre, en fait, tu vois, je trouve que c'est Tammy 2, elle est, comment dire, elle est aussi folle que Ron, mais en meuf, tu vois, genre, après, Ron est plus posé, et voilà, mais en fait, ils se sont trouvés pour ça, et je pense qu'au fil de la série...
Ils ont des convictions, et ils s'y tiennent.
Oui, voilà, ils ont des convictions communes, et c'est aussi pour ça que durant longtemps, Ron, il galère à s'en détacher. Il réussit à s'en détacher quand il...
Leur conviction commune, c'est plutôt de bien aimer se lécher les parties génitales, quoi.
Non, mais alors,
il y a une grosse composante sexuelle dans leur relation.
Il y a plein de moments où Ron explique que Tammy 2 avait genre, je sais pas, genre, merde, j'ai plus le truc, mais avait peut-être, mince. Ah non, elle avait campé dans sa cave pendant des heures en attendant qu'il revienne.
Pendant des jours.
Et ça, c'est un Ron move. Tu vois, ça, c'est y a que Ron qui peut faire ça, quoi. Je suis sûr qu'elle s'est battue avec un ours, c'est quasiment sûr.
Oui, et elle aurait gagné nue contre un ours parce qu'elle est dangereuse et flippante, mais elle a aussi une emprise sur Ron qui est très sexuelle.
Aussi parce qu'ils sont... Oui, non, mais il y a grave.
Dans une série qui est très peu sexuelle, je veux dire, il y a peu de cul, c'est pas House of the Dragon, hein, clairement, mais quand il y a du cul, c'est soit vaguement mignon, soit c'est Ron et Tammy et c'est oh non.
Oui.
C'est
oui,
dégueulasse,
oui.
Tout le monde est là. Non, on veut pas savoir.
Il y a aussi le treat yourself qui en vrai.
Oui. C'est très cool.
Ça reste un très bon running.
Ben Wyatt en Batman qui pleure en disant Thank you guys. Et les autres qui sont là, genre Tom et Donna qui sont là, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a invité, c'est ma passion. Oh, j'adore. Il y a Manu qui fait remarquer que t'as pas cité le comptable qui veut embaucher Ben, du coup, dans ton top 3 des running. C'est ton top 3. Ah
non, c'est...
Attends. On change de classe.
Friendship ended with. Friendship ended with top 3. Now, top 2 is top 3. Et mon nouveau top 2, c'est.
T'as déjà oublié le top 2?
Ouais. Bref.
Qu'est-ce qu'on cause? Rappelez-nous le top 2 de Nodus avant. Ok, donc c'est le. Ok, donc c'est. On sait plus.
Mon top 2, c'est Jean Alfio et sa sœur.
Jean Alfio et sa sœur, top 3. Top 2.
Ok, attends, je refais. Top 3, Jean Alfio et sa sœur. Top 2, les entreprises de Tom. Top 1, la boîte de comptable. Vraiment, le truc de la boîte de comptable, c'est. Incroyable, et je trouve ça trop bien écrit, et en plus de ça, et genre la série s'en joue de fou, parce qu'à la fin, il y a Ben qui, donc en gros.
Ils le remettent dans la dernière saison. Alors j'ai monté le micro de Nodus,
oui, non, pas.
Si c'est mieux.
Pardon les Oxori, c'est juste que je parle pas dans un, oui, je parle pas près du micro. Parce que je.
T'as pas l'habitude.
Je m'emballe, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on est là en mode alors,
ouais.
On change l'ordre.
Mais donc, pardon, je disais. La vanne de Ben à chaque fois. En gros, la blague, c'est que à chaque fois que Ben quitte un taf, donc que ce soit son taf au gouvernement ou un autre taf qu'il a trouvé, etc., il se retrouve toujours.
Son taf de comptable chez Entertainment 720, par exemple.
Qu'il a gardé genre 2 jours et demi.
Oui, bah ils veulent pas l'écouter en même temps.
Mais à chaque fois, il quitte son taf et il se retrouve dans un cabinet comptable qui est genre caricatural à fond, qui est tenu par des mecs en costume qui genre ne rigolent jamais à longueur de journée. Et du coup, Ben, il fait à chaque fois des vannes genre il arrive et il fait une vanne nulle. Genre,
see you later, calculator.
C'est excellent. Il fait que des vannes comme ça. Et du coup,
c'est une impro, hein.
Ouais,
c'est une impro.
Ça, c'était une impro.
Bravo. Bravo.
Et le mec dans le cabinet de comptable, à chaque fois, il a un rire. En fait, moi, c'est son rire. C'est l'acteur qui joue le patron du cabinet comptable. À chaque fois, il fait Philippe,
on va essayer de le trouver. Je suis sûr qu'on peut le trouver sur YouTube.
Et c'est toujours la meilleure blague. Et à la fin de la série, je crois qu'ils le font. Ils font revenir la vanne.
Bah oui. parce qu'il hésite à leur filer April, qui oui. cherche quoi faire de sa vie.
Et Ben lui dit, j'ai un truc pour toi. Enfin, j'ai une proposition à te faire. Et lui, il a genre, ah, et il dit, non, c'est pas pour moi. Et il fait, ah, c'était le plus court jusqu'à maintenant.
Oui.
Et il est trop triste.
Alors, est-ce qu'on l'a...
Ah, Barney Varm, c'est lui.
Ah, Barney. Et en fait, il arrive... Alors, attendez, attendez. Ça a fonctionné, ça fonctionne, oui. On a l'audio... Okay, c'est bon. Ok. On va mettre le best-of de Barney, qui en fait arrive pas dans le cabinet de compta, mais dans l'épisode où Leslie, elle organise une fête pour son date qui est joué par Justin Theroux. Bref. Tu sais, à un moment, elle sort avec un mec qui s'appelle Justin, un pote de Anne.
Oui.
Qui est genre un trop cool, tu vois. Un mec trop cool qui vient à Indianapolis mm-hmm. et qui l'emmène dîner et tout. Et elle panique et elle embauche tous les profs temporaires de la ville pour animer exact. Sa fête gratuitement en échange de pas perdre leur job. Et du coup, c'est là qu'on le voit pour la première fois et il fait une formation sur Excel.
Mmh.
Ah, je vais mettre les sous-titres parce que nous, on n'a pas le son. Du coup, on va rigoler en décalé par rapport à vous.
Mais je pense que là, tu vois, c'est les vannes du début. Tu peux... Oula.
Oula, est-ce que le framerate est en train de mourir chez vous aussi ? Non, c'est bon. Ok, donc ça, c'est les vannes de quand il est... Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, le PC meurt, nous dit Ezok.
Oui, le PC meurt. Mais normalement, le PC, ça va mieux.
Et donc voilà, ça, c'est toutes les vannes du cabinet comptable où Ben arrive et...
et fait juste littéralement one joke. Le framerate décède. Ouais, le framerate, ok, on va arrêter.
Vous avez
The love I have for Ben. J'espère que vous l'aviez dans la vanne chez vous, parce que nous, on peut pas vous la montrer.
Vous avez la vanne en esprit, quoi.
En moulin. Chaque fois, wow. Ça me fait rire, ça fonctionne. Écoutez, en esprit, en moulin, voilà, une personne
mais en plus, c'est vraiment, c'est une private joke qu'il y a vraiment que toi qui...
Oui,
a...
alors Rap Jeu, c'est quand même un peu connu comme émission, il me semble. C'est sur YouTube. Je sais pas si tu connais YouTube. Moi, je suis très
non.
YouTube.
Non.
Cette anecdote est fausse. Donc quand même, je me dis, si je la connais, ça va, il y en a d'autres qui la connaissent. Est-ce que c'est pas un peu du contexte? C'est peut-être un peu
c'est
du contexte.
C'est un moment contexte.
Nous, on n'a pas vu la diff du framerate de la vidéo. Ok, bah si, Myrillion, elle l'a vu.
On fera des tests, je pense, Ezok, après le stream, parce que, ouais.
Tout ça est une impro en temps réel.
Sur le retour, on avait un framerate de 3 images par heure. Donc,
oui, ce qui n'est pas beaucoup d'images par heure.
Peu d'images,
si vous,
ouais.
Voilà, si vous êtes un peu calcul mental chez vous.
Et toi, c'est quoi tes running gags préférés?
Mon numéro 1, c'est sûr de sûr, c'est à quel point Ben, c'est un nerd. Et
mais
du coup,
ouf.
Spécifiquement, son jeu de plateau, Cones of Dunshire, c'est ma chose préférée au monde. Je crois qu'ils l'ont édité à un moment, ou alors des fans l'ont créé sur Etsy. C'est un jeu inutilement compliqué, avec oui. énormément de pièces qui n'a jamais de sens quand ils le racontent. Et maintenant que je te fréquente et qu'on possède beaucoup de jeux de plateau, dont des jeux de plateau de type auxquels je n'ai jamais joué, comme par exemple avec des figurines et des campagnes de jeux de rôle quasiment à faire et des gros trucs
alors,
de nerd.
Tu fais littéralement des campagnes de jeux de rôle maintenant, donc.
Mais maintenant, oui. Mais avant de te connaître, déjà, non. Et aussi, j'avais jamais vu des jeux de plateau avec des figurines, genre, c'est des gars avec des épées. Moi, j'avais la chaussure du Monopoly.
Oui,
tu
oui,
vois.
Non, mais oui.
Genre, je découvre un nouveau champ des possibles. Et j'adore ce qui se passe, car je suis aussi une grosse nerd. Et du coup, revoir Cones of Dunshire en sortant avec toi, en le regardant avec toi et en ayant une meilleure connaissance des jeux de plateau
ah
de nerd,
vrai, ouais.
financé sur Kickstarter et tout, j'ai adoré ce running gad. Et effectivement, Ezok, on jouait à Gloomhaven.
T'as dit un running
sûr.
Gad, j'imagine Gad Elmaleh qui court.
Il
est là, genre...
Faites-en un fanart, le running gad, c'est juste Gad Elmaleh qui court.
Mais alors d'ailleurs petite parenthèse mais c'est trop marrant d'ailleurs le premier épisode où on voit Cones of Dunshire parce que Ben il est tout le temps en mode équilibrage genre attends non pardon il faut que je refasse des playtests pour là le,
oui.
le il faut que je remette des cones.
Est-ce que ça t'a parlé?
Mais évidemment parce que je
ça
me suis
t'a parlé
je me suis revu faire des playtests de jeux de plateau et c'est vraiment pour le coup c'est bien fait quoi.
Oui, t'as fait ça en école de game design en
j'ai
plus.
J'ai fait un jeu de plateau qui s'appelait Coup de pression où il fallait
en vrai,
mettre
meilleure
des cartes.
Idée. Le dis pas parce ouais. que vends pas donne pas ton
Ravens
idée gratuite aux gens. Ouais, on sait pas en vrai. C'est une bonne idée. Et on a un copain qui s'appelle Théo Rivière qui crée des jeux de société et il a créé un jeu qui s'appelle Paquet Chips.
Oui, je me souviens.
Où c'est un paquet de chips, l'emballage du jeu et les tuiles, c'est des chips. Donc imagine Coup de pression et Paquet Chips. Les jeux d'apéro, tu as compris.
Évidemment.
Tu as compris. Bref. Bientôt chez votre marchand de journaux. Donc ouais, mon running gag préf, c'est la nerderie de Ben. Et effectivement, plus ça va, plus je m'identifie à lui. Ce qui est un peu rassurant parce que je m'identifie du coup un peu moins à Leslie qui est quand même extrêmement rigide comme, enfin extrêmement intense comme
oui,
personne.
Ouais.
Je suis un peu Leslie, mais pas tant. Je suis un peu Leslie en termes de management, je pense, et un peu et beaucoup Ben en termes de nerderie et de rapport au monde. Et quand Leslie lui offre le trône de fer, vraiment, j'étais là, c'est humiliant à quel point cet homme, c'est
oui,
moi.
Oui,
et
oui,
en plus, regarder ça avec toi qui a quand même subi 10 semaines de House of the Dragon en vivant avec moi, ce qui est une aventure.
Moi, c'était bien, il y avait des dragons et des maisons. Enfin, moi, j'ai bien
c'était
aimé,
bien,
quoi.
Mais t'avais aussi ta meuf qui écoutait 9 heures de podcast par semaine, qui en
après,
produisait 3.
Ça, c'est ta vie, quoi.
Voilà, c'est ma vie où tu me disais, tu fais quoi? Et ma réponse était, une fois sur deux, je suis sur Reddit en train de lire des théories sur House of the Dragon. Et t'étais là... Ok, tes recos YouTube ont changé, parce que quand je regarde YouTube sur la télé, je suis sur ton compte, et d'un coup, il y avait beaucoup de vidéos sur The Great Empire of the Dawn, et bref, des trucs. Et vraiment, voir Ben faire sa tête surpris content sur le trône de fer, j'étais là, cet homme, c'est
moi. Ah, mais ce sera ta tête si demain on t'offre un trône de fer. Hein.
J'ai une photo de moi sur le trône de fer quelque part, et je fais une tête que j'espère être un peu plus badass, mais en même temps, on me l'a pas offert dans mon salon, dans mon bureau même, donc.
De toute façon, ça ne rentre pas, donc.
Ça rentre peu. Et j'aime bien le fait que Leslie, elle soit pas nerd et elle lui dit, elle essaye de cosplay,
oui,
elle est là,
oui, oui.
Captain, votre vaisseau spatial est en danger. Et il est là, en fait, si tu sais pas, essaye pas. Et je trouve ça tellement...
À chaque fois, il lui dit, en fait, stop. Non, là, c'est... Là,
il la stop là, direct. Stop. Et il lui dit, en fait, je vais quand même t'expliquer si ça va m'énerver. Et je suis là, c'est moi, vraiment, j'en fais des podcasts à la fin. Donc, c'est beaucoup moi. Donc ça, je pense que c'est mon top 1 running gag pref de tous les temps. J'aime beaucoup Jen Barkley, qui est un personnage qui arrive assez tard puisqu'elle a c'est une consultante en politique qui c'est la consultante en communication politique qui vient à la base épauler l'adversaire de Leslie dans l'élection municipale qui est Bobby Newport. Mm-hmm. Bobby Newport never walked a day in his life, qui est joué par Paul Rudd, un des acteurs peut-être les plus famous à avoir joué dans Parks and Rec, puisque c'est Ant-Man littéralement, en plus d'avoir été déjà le copain de Phoebe dans Friends, etc. Enfin, beaucoup de rôles quand même assez majeurs. Et Jen Barkley, elle revient régulièrement en fait elle joue le rôle d'élément perturbateur qui vient proposer à Ben ou à Leslie un job cool à la capitale et une promotion pour être élue à un poste plus important et donc quitter Pawnee. Et elle a un arc child free dans la dernière saison.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Ben et Leslie ont 3 enfants, ont des triplés, qui est un arc qui ne sert à rien, puisqu'ils décident de pas utiliser du tout cette histoire. Les enfants, on les voit quasiment jamais.
Bah, ils font une
ça
ellipse.
Ça les handicape pas dans leur vie. Ouais, mais ils font une ellipse, mais à la fin, ils ont des enfants de 4 ans, tu vois. Genre, c'est censé être quand
oui,
même.
Ouais.
Ils ont pas le permis encore, tu vois. Ils sont pas à la fac, ils payent pas leur loyer, ils font pas des petites pizzas surgelées en rentrant de soirée, donc. Ça pourrait être un arc de dire bah comment si toi tu deviens gouverneur et tout comment on va faire avec les gamins, mais c'est très vite évacué en on va trouver, on a toujours trouvé. Et d'un côté c'est rafraîchissant parce que souvent dans les sitcoms les enfants c'est la mort des vannes. Mm-hmm. C'est en fait ils savent plus quoi faire une fois ils tiennent au fait que tous les personnages doivent pondre des gosses et après ils sont là on a cassé notre série du coup maintenant ils ont des gosses. Je suis là ouais, bah vous êtes pas obligé de leur faire des gosses. Hein,
c'est vrai que ça servait pas à grand chose le fait d'avoir mis enfin genre de leur avoir fait avoir des triplés. En fait, je vois pas l'intérêt. C'est.
Bah, à part le. Alors, c'est un bon callback à l'épisode dans la saison 2 où Leslie a il date un mec qui lui fait passer une IRM. Tu sais, le mec fou qui bosse
oui,
en.
Oui, 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 oui.
Qui bosse en IRM oui. Et qui lui fait passer une IRM et qui fait des vannes de plus en plus creepy. À un moment, il lui dit oh là là, vous avez un super utérus.
Oui.
Franchement,
oui,
si
oui,
vous
oui,
vouliez,
oui.
Premier coup triplé, let's go. Et bah, premier coup triplé, let's go. Donc, peut-être que c'est littéralement juste.
Oui, je pense que
un callback à cette vanne, mais c'était pas hyper utile de leur faire avoir des enfants, mais ça permet à Jen Barkley, consultante en politique venue de Washington, d'être hilarante à chaque fois qu'elle vient chez eux, puisque quand elle voit passer ses enfants, littéralement, ouais. Elle crie, elle est là en mode, bah, c'est quoi ça? Genre vraiment, on dirait qu'elle est dans la jungle et qu'elle a jamais vu ça. Et après, elle porte un poncho pour se protéger et tout. Jen Barkley. J'ai envie d'un spin-off entier sur elle, franchement.
Mais attends, mais on l'avait revu dans un autre truc assez récemment.
Eh bah oui, on l'a vu dans Glass Onion, où elle joue la gouverneure, qui est une mère courage, pour le coup, qui essaye de concilier la politique et la maternité. Ben doit tellement faire des podcasts de nerd aujourd'hui. Putain, c'est vrai. Alors, j'espère qu'il fait des podcasts de nerd et pas des vidéos YouTube en mode « Why the MCU is wrong ?» Mais non, je pense qu'il fait...
Aussi.
Mais ah oui, elle est dans WandaVision que t'as pas vu,
non.
Mais elle est incroyable dans WandaVision. J'étais là en mode, oh, c'est Jen Barkley, du coup ça va être quelqu'un. Genre,
WandaVision, c'est bien l'histoire de.
C'est la série Marvel
Vision,
avec.
C'est le mec, c'est une USB là.
Ouais.
Et Wanda, c'est.
On a regardé tous les films Marvel l'an dernier.
Attends, okay. Attends. Vision, c'est la clé USB rose et il a un port Ethernet là sur la tête.
C'est exactement ça. Ouais. Ouais.
Et Wanda, c'est la meuf qui se tord dans tous les sens. Non.
Non, c'est Scarlet Witch. C'est ça, go.
Je l'aurais pas eu.
C'est normal, on s'en fout. Honnêtement, j'aimerais pas attendre plus. J'ai regardé tout WandaVision et je suis, on s'en fout. En vrai, elle est OP. Elle devrait niquer tout l'univers parce qu'elle est hyper puissante, comme genre pire que Captain Marvel. Mais bon, ça va. Wanda, quoi. C'est, bah, c'est ceux où pendant tous les films Marvel où ils étaient là, t'étais là. Pourquoi ils sont là? Eux, on s'en fout de leur vie.
Vision,
et
je
après,
trouve,
ils ont
rien.
Leur série.
Bref.
Mais non, mais les deux, ils sont pas dingues. Mais leur série était assez innovante sur la forme et ça a mérité que je regarde en entier. Et il y a, du coup, Catherine Hahn. Elle s'appelle l'actrice qui joue Jeanne Barclay, qui est incroyable dedans. Mais Jeanne Barclay, je pense, ouais, c'est mon number two. Et, je pense que le fait que Jérémy Jab soit un gros weeb, ça me fait vraiment très plaisir.
C'est incroyable ça.
Donc,
à chaque
Jérémy
fois.
Jérémy Jab, qui est un des antagonistes, qui arrive pareil sur la deuxième moitié de la série, qui est un autre élu, un dentiste qui est aussi conseiller municipal et qui met des bâtons dans les roues à Leslie et qui est globalement sexiste, classiste, assez raciste et tout, et qui est un bandeur du Japon en fait. Et je trouve que c'est trop malin. Enfin, c'est pas une série où je m'attendais à avoir une caricature des mecs qui achètent des katanas au centre commercial et qui les mettent au mur et qui... En fait, il fait tout mal.
Il est en kimono chez lui.
De façon japonaise, mais mal. Et je le hais. Et ça me fait le haïr encore plus parce qu'en fait, au début, j'étais là... Ok, il est un peu caricatural, mais genre, je connais pas vraiment ce genre de mec, tu vois. Je connais pas un Jérémy Jam dans la vie. Et quand j'ai vu qu'il était fan du Japon, j'ai fait, oh, je le connais. Oh, je le connais, je le hais si fort. Du coup, le fait qu'il soit, ouais, un blanc bandeur du Japon, c'est, ça marche hyper bien. Et je trouve que c'est assez moderne pour une série qui se passe dans une petite ville américaine de ces eaux-là. Voilà, ça m'a plu parce que j'ai fréquenté pas mal d'hommes comme ça dans ma vie, et de ça... personnes qui allaient en cybercafé.
Momo.
Ah, mon chat a poussé un bruit débile parce qu'elle s'est mordu sa queue. Voilà. En plus, ça... cet animal va bien, hein, voir ça.
Et ça crée aussi un moment incroyable, je crois que c'est dans la dernière saison où ils sont invités chez lui. Enfin, il y a des persos qui sont invités dans la maison de
Jérémy Jam.
De Jérémy Jam. Et vraiment, mais c'est incroyable. C'est le pays du soleil levant. Le mec.
Ah oui, mais en plus, enfin voilà, il leur fait genre, il a un genre de barbecue japonais où il fait sauter les trucs, mais il leur fait genre des œufs brouillés nuls. Il mange des edamame, donc des graines, et il dit attention, pas manger les graines, manger la cosse. Alors que non, c'est l'inverse. Je suis là. Ah, mais en plus, il fait mal. Il s'intéresse.
Termine.
Je le hais si fort.
C'est vrai que c'est un très bon running gag aussi. Moi, je l'aime trop. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment où il est un peu... En fait, il a toujours cette image de connard. Il passe toujours pour le connard, précisément envers Leslie, parce que c'est son...
C'est vraiment un connard.
C'est son... Oui, non, mais oui, c'est un
connard. Je veux dire, il est activement un connard, quoi, avec...
Oui, oui.
C'est pas juste, c'est son opposant politique, c'est waouh.
Mais il y a un moment où je crois qu'il est... Alors, c'est pas qu'il est plus gentil, mais...
Bah non, mais dans la dernière saison, il sort avec Tammy Too, qui est en train de le transformer en Ron Swanson.
Exactement.
Et du coup,
oui,
il est
oui.
en train de mourir à petit feu parce que Tammy Too, l'ex-femme de Ron, est folle. Qui est d'ailleurs, si vous ne le savez pas, l'actrice dans la vraie vie, c'est la vraie femme du mec qui joue Ron Swanson, Nick Offerman. Donc Megan Mullally, qui joue Tammy Too, c'est la vraie femme de Nick Offerman qui joue Ron Swanson. Et ils sont incroyables tous les deux.
Autre fun fact incroyable que je sais depuis des années, hein. Je n'ai pas du tout appris ça avant-hier. Est-ce que vous saviez que dans Brooklyn Nine-Nine et aussi The Good Place, par exemple, quand il y a la voix qui dit Frumulon, eh bien, c'est Ron Swanson qui est joué par...
Je viens de le dire. Je viens de dire son nom. Vous m'avez entendu, je l'ai prononcé.
Allô?
Nick Offerman.
Nick Offerman. Eh bien, c'est lui qui fait la vraie voix. Et j'ai vu tout à l'heure une vidéo YouTube où on le voit faire la voix et il l'a fait en deux prises.
En même temps, il dit Frumulon.
Oui, non, il dit un mot, quoi. Mais bon, voilà.
Mais oui, et si tu googles Is Frumulon said by Nick Offerman, je crois qu'il y a un site qui dit juste genre oui.
Mais je m'en étais jamais rendu compte, c'est rigolo.
Donc oui, Jérémy Jam est transformé. Donc dans la dernière saison, Ron et Leslie sont fâchés. On se rend compte que Ron et Leslie sont fâchés depuis des années, on sait pas pourquoi ils se parlent plus. Et ils se réconcilient par la force des choses le temps d'un demi-épisode parce que Leslie... qui a besoin du vote. Donc, ils sont opposés par... Ils veulent tous les deux un terrain. Ron le veut pour construire un campus pour Grizzle, un géant de la tech. Mm-hmm. Et parce qu'il est dans la construction maintenant, enfin dans le bâtiment. Et Leslie le veut pour en faire un parc national, mais elle a moins d'argent qu'un mastodonte de la tech. Et du coup, ils sont opposés. Et le vote de Jam peut être décisionnaire pour à qui va le terrain. Et du coup, Leslie se rend compte que Jam, il sort avec Tammy Too et qu'il est au fond du trou. Donc, au début, elle se dit, ah, bah, c'est bon pour moi parce que il va faire un truc qui énerve Ron, parce que Tammy va lui dire, fais le vote qui énerve Ron, parce qu'elle est très clairement encore à fond sur Ron et elle essaye de transformer Jérémy Jam en Ron.
Psychologie inversée.
Ouais. Et, et sauf que Leslie se rend compte que, bah, non, je peux pas faire ça. Enfin, le pauvre homme, il est quand même en train de se faire sucer son essence vitale, donc c'est pas bien.
C'est trop marrant parce qu'ils ont mis à l'acteur le même polo qu'à Ron. Ils lui ont mis la même coiffure. Il a la même moustache. Et genre vraiment, ils ont dit à cet acteur, joue Ron.
Comme toi, Halloween.
Alors moi, non, moi c'était vraiment Ron mais Wish, tu vois, genre c'était compliqué. Mais lui, ouais, c'est Ron,
Ron
mais
Swishson.
Ron lui, c'est enfin le quand quand
Jeremy Jam.
Jeremy. Quand Jeremy Jam devient Ron dans la dernière saison, je trouve ça vraiment genre c'est un humour qui m'attaque par la pitié, tu vois, genre je...
Mais oui, c'est ça en fait, c'est... ils ont pitié de lui et du coup Ron et Leslie qui se détestent à ce moment-là et qui sont opposants se réconcilie pour le sortir, enfin oui, le lui faire un genre de lavage de cerveau anti-Tamie tout, il l'emmène dans la cabane de Ron et il lui met des baffes encore et encore et encore. Ah oui, does Nick Offerman say Fremulon?
Merci Fanny.
Merci Fabi. La réponse est attention. Yes.
Yes, voilà. Yes, he does. Attends.
Nick Offerman does indeed say Fremulon at the end of the Brooklyn Nine-Nine episodes. Et après il y a un lien vers qui dit not a doctor?
Attends, est-ce que
je pense pas que je l'ai.
Est-ce que je peux l'avoir?
Ah! Tu l'auras pas. Non, tu peux pas l'avoir.
Ok, bah je l'aurai pas.
Bah c'est Michael Schur, le créateur de Brooklyn Nine-Nine, entre autres, et de Parks and Rec et de The Good Place. Donc une personne relativement très fréquentable. Écoutez, oui. The More You Know, merci beaucoup, Fabi.
Et c'est vrai que Leslie imite très très bien Tammy 2. Il y a plein de moments dans la série où elle imite Tammy 2 et... C'est troublant, quoi. C'est vraiment troublant.
Oui, mais en vrai, Amy Poehler est super forte comme actrice comique. Oui. Elle est super forte en imitation. Et il y en a, et je trouve que Parks and Rec, c'est quand même un très bel éventail de son talent parce que il y a plein de moments où elle est hilarante, mais elle est hilarante en timing, en comédie physique. Il y a des moments, genre, il y a un moment où elle roule dans le fameux pit, le fossé, là, qu'il y a derrière la maison de Anne au début. Il y a un moment où elle tombe dedans et elle roule et c'est d'une lenteur et d'une médiocrité, d'une pitié de scène horrible. Enfin. Faut aussi y aller, tu vois, d'être un personnage, d'être une actrice qui joue une héroïne féminine qui se met dans des situations vraiment pas très flatteuses et tout. Mais elle est très très marrante. Il y a Mirillion qui dit Nick Offerman joue également dans le thriller d'anticipation Devs. Alors effectivement, et Devs, c'est une série donc de SF, je dirais,
ouais,
qui pose les questions du libre arbitre et de où est-ce que la technologie commence et où les humains finissent, ou l'inverse, I don't know. C'est assez deep. Et pour le coup, Nick Offerman joue un personnage très loin de Ron Swanson, puisque c'est un génie de la tech, mais qui a, enfin pour le coup, vraiment du dev et tout, mais qui a perdu sa famille dans un accident tragique. Voilà. Donc c'est moins fun, mais pour voir une autre facette de son talent, c'est très cool. Du coup, voilà, c'était notre débrief et retour sur Parks and Rec, la meilleure série comique du monde, source moi-même. C'est disponible sur Prime Video, tout est disponible. Si vous voulez regarder, allez-y, c'est un cadeau de vous à vous. Accrochez-vous un petit peu si la première saison ne vous parle pas trop, c'est pas grave, ça devient très très bien ensuite. Et si vous voulez voir la tier list des personnages de Parks and Rec classés selon des critères très scientifiques, rendez-vous sur Twitch, le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.